Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est un ouvrage du cardinal Henri de Lubac, qui fut membre de l'Académie des sciences morales et politiques, que je vous propose de découvrir dans cette émission. Elle nous permettra de côtoyer deux grands penseurs du XXe siècle, Henri de Lubac, donc jésuite, théologien, cardinal, et Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, lui aussi, paléontologue, dont les idées sur l'évolution, notamment, ont suscité des débats passionnés, tant du côté de ses disciples que de ses adversaires farouches. Pour nous présenter cet ouvrage que les éditions du CERF viennent de publier, c'est un nouveau tome des œuvres complètes du cardinal de Lubac. J'ai le plaisir de recevoir celui qui, justement, en a assuré la présentation, Jean-Pierre Wagner. Bonjour, Jean-Pierre Wagner.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir fait le voyage depuis Strasbourg pour venir jusqu'à Canal Academy et répondre à notre invitation. À Strasbourg, vous êtes en effet professeur de théologie dogmatique à la faculté de théologie catholique de l'université Marc Bloch de Strasbourg.
Tout à fait.
Vous préparez donc des élèves du DUG jusqu'au doctorat avec, m'avez-vous dit, beaucoup d'élèves étrangers. Et vous-même, vous avez consacré votre thèse au père de Lubac. Et c'est cette thèse qui a été publiée, et je dois ajouter qu'elle a été distinguée d'un prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour ce travail. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de théologie et vous êtes membre du comité scientifique de l'édition qui travaille à la publication des œuvres complètes du père de Lubac.
50 volumes.
50 volumes prévus. Alors celui-ci, c'est le volume 24. Nous avons encore peut-être d'autres occasions de nous rencontrer. J'ajouterai que vous êtes aussi prêtre dans le diocèse des Vosges à Saint-Dié. Ce volume, il s'intitule « La prière du père Teilhard de Chardin ». C'est le tome 24 des œuvres complètes de Lubac. Monsieur Wagner, à quelle époque et dans quelles circonstances le père de Lubac a-t-il été amené à écrire sur le père Teilhard de Chardin ?
Alors, les écrits du père de Lubac sur le père Teilhard de Chardin sont des écrits qui nous arrivent au moment où la pensée de Teilhard de Chardin est l'objet de polémiques très vives et en même temps, on pourrait presque dire, d'encensement inconditionnel. Entre ces deux excès, on commence à s'inquiéter parce que la pensée de Teilhard de Chardin est livrée comme ça entre des courants contradictoires et en particulier, il y a de forts groupes de pression qui souhaiteraient obtenir une condamnation du père Teilhard de Chardin par les autorités romaines.
Alors, on est à quelle époque ?
Le père Teilhard de Chardin est mort en 1955 et nous sommes à ce moment-là, après sa mort, et il est nécessaire de rectifier sans doute la vision que l'on a de Teilhard, de faire ressortir l'homme dans sa vérité, aussi bien le savant que le religieux et que celui qui s'est risqué sur les terrains de la philosophie et de la théologie. C'est la raison pour laquelle les jésuites demandent à Henri de Lubac de bien vouloir se mettre à la tâche pour essayer de donner le véritable portrait de Teilhard de Chardin.
Alors pourquoi les supérieurs de la Compagnie de Jésus ont-ils choisi Henri de Lubac qui lui-même était un peu, disons, marginalisé ?
Et c'est le paradoxe, c'est que l'un et l'autre sont jésuites, l'un et l'autre sont donc formés dans les grands réseaux des jésuites. Teilhard de Chardin a un petit peu quelques années de plus, une quinzaine d'années de plus que Lubac, puisque Teilhard est né en 1881 et décédé en 1955, alors que le père de Lubac, lui, est né en 1896 et décédera en 1991. Donc vous voyez, à peu près une quinzaine d'années, c'est à la fois beaucoup et c'est peu. C'est peu parce que ce sont deux hommes qui vont être mis dans les mêmes réseaux de relations. Et le père de Lubac va connaître des ennuis qui vont dater grosso modo de la publication d'un de ses livres majeurs surnaturels en 1946. Et le père Teilhard sera suspecté bien plus tôt, puisque la vie même du père Teilhard de Chardin est marquée part les diverses suspicions qui l'amèneront à quitter Paris, à être envoyé en Chine, tant mieux pour son travail scientifique, dommage peut-être pour son équilibre de vie personnelle, et à la fin de sa vie, c'est New York, et il faut bien dire que New York apparaissait comme étant un exil. Donc le père Teilhard de Chardin va trouver dans de Lubac un ami. Et on peut presque dire que si la Compagnie de Jésus n'avait pas mobilisé le père de Lubac pour écrire à propos de Teilhard, les deux hommes se seraient connus, puisqu'ils étaient dans les mêmes réseaux, nous savons qu'ils échangeaient de la correspondance, et nous savons que Teilhard aimait soumettre ses essais à la lecture de personnes qu'il aimait beaucoup, qu'il respectait. Teilhard de Chardin l'a souvent dit, il tâtonnait dans ses recherches philosophiques et théologiques. C'est un paléontologue qui n'est pas un expert en théologie, même s'il a eu une bonne formation. Et il aimait donner ses textes à ses amis pour avoir leur réaction.
Alors, il faut bien préciser, Jean-Pierre Wagner, que lorsque le père de Lubac se met à écrire, donc sur commande de la Compagnie de Jésus, à propos des écrits du père Teilhard, le père de Lubac, d'abord, il est loin d'être cardinal encore, nous sommes en 1961, donc le père de Lubac ne sera cardinal qu'en 1983, mais il a déjà une grande renommée de théologien, renommée appréciée par les uns et tout à fait dépréciée par les autres. Donc, il se met à écrire, on est dans les années 61, et le livre paraîtra en 1964, puis en 1968. Et là, on est dans la période Vatican II, que Teilhard n'a pas connue, évidemment, puisqu'il est mort en 55, comme vous l'avez dit.
Tout à fait. Et on pourrait même préciser que le père de Lubac va lui-même avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer de plus en plus et de mieux en mieux à partir du moment du lancement du concile. On pourrait même presque dire, d'une manière plus sereine, à partir du moment où Paul VI accède au pontificat.
Parce que Paul VI le lisait beaucoup.
Paul VI le lisait beaucoup. Vous savez que Paul VI est un pape très francophone et de culture française. Donc, il lisait de Lubac. Et lorsque le cardinal Montini était archevêque de Milan, il avait facilité la traduction en italien d'un des grands livres de Lubac, « Méditation sur l'Église », et il l'avait même recommandé à ses prêtres. Et c'est donc, on peut dire avec Monseigneur Montini, qu'à Rome, les affaires de Lubac s'améliorent.
Alors, est-ce que vous pourriez, Jean-Pierre Wagner, avant qu'on parle justement du travail de Lubac sur Teilhard de Chardin, nous rappeler quelques-uns des titres les plus célèbres de Teilhard de Chardin, parce qu'il faut qu'on les ait bien en mémoire avant de parler du sujet.
Aujourd'hui, nous trouvons les œuvres de Teilhard de Chardin éditées dans une série, là aussi d'œuvres complètes, aux éditions du Seuil. Et peut-être que le premier volume est le plus connu, puisqu'il s'agit du phénomène humain.
Le phénomène humain,
Le phénomène humain, c'est le grand livre. C'est un livre qui est totalement marqué par la recherche scientifique du père Teilhard. Ne l'oublions pas, c'est un paléontologue. Il étudie les fossiles, il étudie les boîtes crâniennes et dans le phénomène humain, nous avons là la quintessence, si vous voulez, des recherches scientifiques de Teilhard et sa manière de lire, sa manière d'interpréter l'évolution humaine.
On lui doit, je crois, la découverte de ce qu'on appelle l'homme de Chine en paléontologie.
Il était dans cette équipe de recherche et il a travaillé aussi bien en Afrique, mais beaucoup en Chine, effectivement. Et on peut presque dire que c'est là qu'a mûri une bonne partie de sa pensée. Vous me demandiez plusieurs titres. Je crois qu'il faut immédiatement en donner un autre, qui est un titre extrêmement célèbre, mais d'une facture littéraire très différente. C'est « Le milieu divin ». Alors là, c'est un livre qui nous fait rentrer dans la facette mystique de Teilhard de Chardin. Voilà peut-être les deux grands livres, « Le milieu divin », avec de très très belles pages sur à la fois les puissances de développement dans l'être humain, mais aussi les puissances de diminution. Et il y a de belles pages sereines de Teilhard sur l'acceptation de ces puissances de diminution, à savoir la proximité du travail de la mort. Donc voilà peut-être les deux livres les plus célèbres.
Combien de livres en tout, on peut dire, pour avoir une idée?
Alors c'est difficile parce que vous savez que Teilhard de Chardin n'avait pas le droit de publier en tant que tel, sauf ce qui relevait d'un caractère purement scientifique. Donc les revues scientifiques ont été publiées dans des éditions très spécialisées, des revues donc de savants. Et puis Teilhard a écrit et a légué à ses exécuteurs testamentaires un certain nombre de textes qui étaient plutôt des essais. Et ce sont ces essais que l'on a rassemblés d'une manière thématique, ceux qui portaient regard sur le passé, ceux qui semblaient porter regard plutôt sur l'avenir, et également des essais plutôt sur la christologie, et d'où les textes tardifs de Teilhard, les textes de 50-55, avec aussi le Christique, qui est le dernier grand texte peut-être de Teilhard de Chardin, texte à consonance théologique.
Jean-Pierre Wagner, je vous propose de marquer une courte pause. Nous nous retrouvons dans un instant et nous allons aborder la manière dont le père de Lubac défend le père Teilhard de Chardin, parce qu'au fond, il se fait son défenseur, même s'il ne veut pas être son adepte, on peut dire cela.
Il n'est pas son disciple, mais il est son défenseur.
Très bien, à tout de suite.
Écoutez Canal Académie.
Retour dans notre studio avec Jean-Pierre Wagner, professeur de théologie à l'Université catholique Marc Bloch de Strasbourg et auteur d'un ouvrage, de deux ouvrages même, sur le père de Lubac. Nous parlons de l'ouvrage du cardinal de Lubac qui s'intitule « La prière du père Teilhard de Chardin » qui est suivi de « Teilhard missionnaire et apologiste ». Alors, Jean-Pierre Wagner, quelle est la méthode utilisée par de Lubac pour défendre la pensée de Teilhard de Chardin?
Je crois que dans ce livre, nous retrouvons la méthode du père de Lubac et nous avons une véritable démonstration de sa méthode. Premier trait de cette méthode, c'est de connaître les textes. Et le père Teilhard était souvent cité, utilisé. Peu de gens avaient les textes en totalité.
Vous dites même qu'il y en avait qui ne les avaient pas trop lus, en fait. Il avait beaucoup de critiques.
La méthode de Lubac, c'est au contraire tout lire. Le maximum de ce qu'il pouvait avoir, et par les relations personnelles qu'il avait avec Teilhard, il avait beaucoup d'inédits. Et bien évidemment, la Compagnie de Jésus va lui donner accès aux inédits. Deuxième caractéristique, c'est que de Lubac a également lu tout ce que l'on écrit sur Teilhard. Et cette bonne guerre, puisqu'il faut défendre, il faut dire ce qui est juste, il faut dire ce qui est faux, ce qui est mensonge, ce qui est incompréhension, ce qui est, peut-être, marque simplement d'ambiguïté. L'efficacité de Lubac consiste donc à se montrer un lecteur ferme et non pas un disciple inconditionnel. Lui-même dira qu'il n'a pas peur de repérer ce qui aurait dû être peut-être plus ferme dans la pensée de Teilhard, mais en même temps, il voudra montrer toujours l'orthodoxie profonde de l'homme. Et je pense que c'est cela, le fil conducteur. Montrer que, pour un lecteur qui est attentif, on ne peut pas mettre en doute l'orthodoxie du père Teilhard, même si celui-ci a eu quelquefois des propos ambigus, des propos de pionnier, des propos de chercheur. La deuxième caractéristique de Lubac, c'est montrer que Teilhard est une âme spirituelle. D'ailleurs, le jeune Teilhard signe des textes d'étudiants, des premiers textes sur le prêtre, où il fait déjà la démonstration qu'il est un auteur spirituel. Et ces textes de jeunesse, qui ont été également édités par le père de Lubac, constituent sans doute la structure de ce qui va se développer après coup. et le père de Lubac aura toujours une petite prédilection pour les textes de jeunesse, beaucoup plus mystiques, dit-il, et des textes à connotation moins systématique, moins colorée par un système philosophique et théologique que les textes tardifs de Teilhard. Voilà donc la méthode utilisée par le père de Lubac, avec aussi ce qui est sa caractéristique, c'est confronté constamment à la grande tradition de l'Église.
Ah oui, c'était un spécialiste de la grande tradition de l'Église, c'est-à-dire des pères de l'Église.
C'est un spécialiste de la grande tradition de l'Église, spécialiste des pères. N'oubliez pas qu'il a été à l'origine, avec le cardinal Danielou, de la grande édition des textes des pères grecs et latins, source chrétienne. N'oublions pas qu'il est également un grand spécialiste de Thomas d'Aquin. Sa thèse sur le surnaturel est une lecture de Thomas d'Aquin en partie. Et n'oublions pas aussi et que de Lubac se passionnait pour les auteurs de son temps. Et là, c'est un point commun avec Teilhard de Chardin. S'il faut citer deux noms, je n'en citerai que deux. Il faudrait tout de suite dire la place de Maurice Blondel, pour l'un comme pour l'autre. Et puis, la place de quelqu'un dont le nom nous est aujourd'hui bien peu connu, mais qui fut un jeune professeur de l'Institut catholique, qui va être tué pendant la guerre en 1915, qui est le père Rousselot. Et le père Rousselot, brillantissime, philosophe et théologien, était un ami intime de Teilhard de Chardin. Et sans doute Teilhard de Chardin a été introduit dans un certain nombre de thèses théologiques assez fines grâce à son ami Rousselot.
Jean-Pierre Wagner, dans ce livre donc du père Henri de Lubac, La prière du père Teilhard de Chardin, les premiers chapitres sont consacrés à l'enfance, bien sûr, à la formation religieuse reçue par ses parents, solide, puis à l'expérience de la guerre de 14, Première Guerre mondiale, puis à l'expérience mystique, vous l'avez dit, c'est-à-dire Teilhard de Chardin a connu une expérience mystique, c'est-à-dire une relation personnelle à Dieu.
C'est bien évident, c'est bien évident. Cette relation, elle lui vient sans doute déjà de sa formation familiale, puis de sa formation jésuite. Et peut-être que ce lien à Dieu va être médiatisé par un attachement très grand au Christ, via la théologie de saint Paul. On avait des études pour regarder quels étaient les textes fréquemment cités, ruminés, que Teilhard va encore méditer dans ses carnets de retraite. Et n'oublions pas, il faisait une retraite avec beaucoup de zèle et de dévotion tous les ans. Ce sont les textes de Paul. Et les textes de Paul qui nous parlent du Christ, et qui plus est, les textes de Paul qui nous parlent du rôle grandiose du Christ par rapport à la création et par rapport à l'univers. Voilà tout ce qui peut sans doute baliser l'expérience mystique de cet homme qui a un sentiment, c'est un sentiment de la présence de Dieu. C'est peut-être la spiritualité jésuite aussi, ne l'oublions pas, trouver Dieu en toute chose et en tout événement.
Absolument, c'était un homme qui pratiquait la spiritualité ignatienne de manière très exigeante et à fond, et il ne l'a jamais laissé de sa vie. Il l'a toujours pratiqué, il faut tout de même le souligner. C'est donc un homme qui avait une vie intérieure et spirituelle très profonde et même un peu hors du commun, on pourrait dire, avec vraiment...
Une vie spirituelle très profonde qui a sans doute été le ressort qui a permis à l'homme de vivre toujours dans une grande fidélité à l'Église, y compris dans les moments d'épreuve où certains de ses amis lui conseillaient sur la pointe des pieds de peut-être prendre un peu de champ avec l'Église institutionnelle.
Ce qu'il ne fit jamais. Ni l'Église ni la compagnie de Jésus. Alors l'un des reproches que l'on faisait au père Teilhard de Chardin, et le père de Lubac dans son livre justement va tout de suite s'attaquer à ce sujet, c'est le panthéisme cosmique. C'est-à-dire on accusait Teilhard d'un retour au panthéisme. Et de Lubac va démontrer, alors vous allez nous dire comment, que justement, non, Teilhard n'est pas un panthéiste.
Alors, Teilhard de Chardin aimait le mot panthéisme.
Il l'aimait quand
il
même.
Il l'aimait et aussi voulait-il sans doute acclimater à nouveau l'usage de ce terme dans le contexte d'un vocabulaire chrétien et montrer qu'il pouvait y avoir un usage légitime. Le père de Lubac essayera de montrer que c'est bien de cela dont il s'agit, et non pas d'un panthéisme au sens philosophique du terme, qui tendrait à confondre Dieu et la nature, ou à confondre l'évolution elle-même avec la nature divine, ce que l'on suspectait, certains suspectaient, Teilhard de Chardin, de tomber dans ce travers. Pourquoi aimait-il le mot panthéisme dans un sens restrictif? Tout simplement pour bien montrer la place de Dieu dans sa création et pour montrer aussi que le Christ, toujours d'après saint Paul, avait pour vocation de tout rassembler, de tout unir en lui, de tout unifier. Je vous donne simplement une phrase que Teilhard avait écrite à l'abbé Breuil. La vraie science mystique, c'est la science du Christ à travers tout. Et si cette définition, finalement, la vraie science mystique, c'est la science du Christ à travers tout, ça nous donne peut-être tout simplement, la conception du panthéisme telle que Teilhard aurait voulu la mettre en œuvre.
L'abbé Breuil, que vous citez, paléontologue lui aussi, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur lequel nous ferons certainement une émission un jour. Jean-Pierre Wagner, ce livre, La prière du père Teilhard de Chardin par le cardinal Henri de Lubac, est-ce que vous considérez que ce serait une très bonne synthèse des positions de Teilhard? Est-ce que vous conseilleriez cet ouvrage pour quelqu'un qui n'est pas encore familier de la pensée teilhardienne, ni même des œuvres de Teilhard? Est-ce qu'on peut commencer par lire ce livre d'Henri de Lubac?
Ici, je ferai une petite restriction. Dans la mesure où je ne pense pas que le père de Lubac ait voulu écrire une introduction à Teilhard de Chardin. Il ne l'a jamais fait. Nous avons d'autres introductions à Teilhard de Chardin, y compris un ami commun, par exemple, de Teilhard et de Lubac, qui est Mgr de Solages, qui a écrit une grande synthèse magistrale sur Teilhard.
Bruno de Solages.
Mgr Bruno de Solages, voilà. Le grand recteur de Toulouse pendant les années de la guerre, grande figure. Il y a aussi, d'une manière beaucoup plus récente, il y a le père Martelet. Le propos de Lubac est toujours un propos, je dirais, plus théologique et plus scientifique. Ce premier grand livre, le premier qu'il a écrit, c'est « La pensée religieuse » de Teilhard de Chardin, livre qui précède de 2 ou 3 années celui que nous étudions. Le premier grand livre est donc plus technique, plus complexe. Simplement, Lubac n'a pas eu la possibilité de rééditer ce livre. Du coup, il a voulu faire un autre livre, puisqu'il ne pouvait pas rééditer le premier, un autre livre plus simple et plus centré sur la spiritualité de Teilhard. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans ce livre des chapitres, par exemple, sur l'Eucharistie, sur la Vierge Marie, sur les retraites annuelles. Mais vous trouverez aussi un chapitre sur limite de l'œuvre de Teilhard.
Voilà, absolument. C'est-à-dire, il n'hésite pas, le père de Lubac, à souligner les limites de l'œuvre, on ne peut pas dire les manques, mais enfin, de l'œuvre du côté de la théologie, j'entends uniquement, évidemment.
Oui, le grief est double, peut-être. Le premier grief serait de montrer que Teilhard de Chardin n'est pas un technicien de la théologie et que, bien souvent, il essaie de lancer des hypothèses.
Oui.
Le fait qu'il ait travaillé en Chine, le fait qu'il ait vécu à New York, lui faisait manquer la rencontre familière et habituelle d'amis avec qui il aurait pu échanger. C'est la raison pour laquelle il aimait confier ses textes à Bruno de Solages ou à Lubac pour que ce travail puisse être répercuté, afin qu'il puisse améliorer le caractère précis de ses textes. Le deuxième grief qui est souvent fait, qui est un grief dont il faut toujours tenir compte pour voir s'il est fondé ou pas, c'est souvent également souligné par le père Lubac. Ce grief est le suivant. Est-ce que le père Teilhard n'a pas eu tendance à passer trop rapidement du domaine scientifique au domaine théologique? Lorsque l'on utilise un gros calibre pour faire ce grief, on dira il mélange les domaines du savoir et il mélange tout. Lorsqu'on veut faire une analyse, une critique plus fine, comme le fait le père de Lubac, ça consisterait à dire non, il ne mélange pas tout, mais il a peut-être un usage facile de l'analogie et de la transposition d'un plan à l'autre. Ici, on touche quelque chose de méthodologique Est-ce que le savoir est complètement cloisonné ou est-ce qu'on peut imaginer des passerelles entre les divers airs du savoir?
Contestablement, Teilhard était un homme de passerelles.
Teilhard était un homme de passerelles et je crois pouvoir dire aussi que Lubac aussi.
Bien sûr.
Et c'est sans doute pour cela qu'ils se comprennent.
Jean-Pierre Wagner, dans ce livre « La prière du père Teilhard de Chardin », il y a aussi plusieurs notes du père de Lubac concernant Teilhard. 7 notes, j'ai compté, mais il y en a une qui est très importante, qui fait une 86 pages imprimées tout de même pour une note, qui concerne l'apologétique teilhardienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer qu'est-ce que l'apologétique en général et l'apologétique teilhardienne en particulier?
L'apologétique en général, c'est faire œuvre qui montre la vérité de la religion chrétienne. Vous savez que la première...
Une défense,
une illustration, une apologie. Il y a par exemple le grand projet de Pascal au XVIIe siècle, apologie de la religion chrétienne. Le père de Lubac lui-même a fait une apologie, une apologétique. Le père Teilhard veut le faire aussi. Simplement, pour que l'apologétique soit performante, qu'elle puisse toucher celui qui va l'écouter ou la lire, il faut que celui qui écrit une apologétique rejoigne, et rejoigne finement si possible, son lecteur, son contemporain. Donc il est bien évident qu'entre une apologétique du Moyen-Âge, ou même celle de Pascal, et l'apologétique de l'homme du XXe siècle, les données culturelles ont changé. Donc l'apologétique elle-même changera. Et pour Teilhard, c'est une apologétique qui doit se faire en fonction d'un homme qui est déjà l'homme de la science, l'homme du comportement scientifique. Et en particulier, cette découverte qui pouvait être traumatisante, que l'univers n'était pas un univers fixe, qu'il était un univers dynamique, qu'il était un univers qui était en évolution.
Toute la création qui était
toute
donc, enfin, telle qu'elle est racontée dans la Bible, si on la prend à la lettre, qui était donc secouée par ces découvertes paléontologiques.
On se battait entre ceux que l'on appelle les fixistes, qui pensaient que la création était une affaire absolument fixe, comme le récit de la Bible pris dans sa manière littérale, et ceux qui pensaient que l'évolution n'était pas contraire au projet créateur de Dieu, et que Dieu était même celui qui, d'une manière ultime, devait être à la fois au point de départ et à la fin du projet de la création. C'était la thèse de Teilhard qui disait dès 18, et le texte est intéressant, « Je voudrais être Seigneur pour ma très humble part, l'apôtre, et si j'ose dire, l'évangéliste de votre Christ dans l'univers. » Bien cette phrase, « Je voudrais être l'apôtre », on peut traduire par « Je voudrais être celui qui fait œuvre d'apologétique », et traduire « l'évangéliste de votre Christ dans l'univers », celui qui va construire une apologétique en fonction des nouvelles donnes de l'univers.
Et c'est vrai, véritablement, ce qu'a essayé de faire Teilhard, une apologétique particulière en fonction des données scientifiques qu'il possédait?
Oui, en essayant, et là nous retrouvons ce que j'évoquais à propos de l'analogie ou à propos du passage à l'autre d'un autre plan, en essayant toujours de montrer ce qui était de l'ordre de la science, en particulier la création, la cosmogenèse, ce qu'il appelle la noosphère avec l'apparition de la pensée, puis cela permettant d'aboutir sur ce qu'il appelle le point oméga, qui peut être à la fois lu d'un point de vue scientifique, et puis qui va être recouvert, si vous voulez, d'une manière analogique, par ce que la révélation dit du point de vue christique, du Christ alpha et oméga. Donc voilà ce qu'a essayé de faire le père Teilhard de Chardin avec cette ambiguïté. Est-ce que là encore, il ne passe pas trop rapidement d'un point à l'autre? Un des détracteurs de Teilhard avait d'ailleurs dit « Aucun scientifique ne pourra se rallier à ce qu'il dit du point oméga », sous-entendu la christologie d'oméga. Il est bien évident que le père Teilhard de Chardin, lorsqu'il parle du Christ Oméga, ne parle plus ici en tant que scientifique, il parle en tant que croyant et il est comme émerveillé de ce qui à ses yeux semble être un éclairage que la révélation peut donner au chemin qu'il avait parcouru en tant que savant.
Alors, on n'a pas parlé des antithéardiens, et dans votre discrétion, Jean-Pierre Wagner, vous ne citez pas de nom, mais moi, je n'ai pas la même que vous. Alors, je vais quand même en citer quelques-uns dans les antithéardiens, après je vous poserai une autre question. Philippe de la Trinité, qui est un religieux, je crois, mais qui a été un théologien important, Monseigneur Combes, le père Garrigou Lagrange, et dans les laïcs, François Mauriac, Jacques Maritain et Paul Claudel, pour n'en citer que quelques-uns, mais il y en a peut-être d'autres, très anti-théardiens. Alors, après la parution du livre du cardinal de Lubac, La prière du père Théard de Chardin, donc en 68, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les anti-théardiens sont devenus moins virulents? Qu'est-ce qui a changé du travail du père de Lubac concernant Théard de Chardin?
Père de Lubac répondrait qu'il a voulu surtout redresser et faire comprendre. Les ennemis de Théard, et souvent qui étaient aussi ceux qui pensaient que de Lubac était un esprit qui pouvait être un peu trop subtil et trop ondoyant, auront tendance à dire que le père de Lubac ne les a pas rassurés et qu'il a plutôt construit un théard qui était un théard de reconstruction pour être tout à fait absous, mais que le propos était un propos peut-être trop de construction pour absoudre son ami. Ce qui fait que les positions vont rester tranchées. Si ce n'est des personnes qui n'étaient pas des théologiens de profession, comme François Mauriac, qui au début était tout à fait allergique à cette idée de crise cosmique. N'oublions pas que Mauriac est en fait un pascalien. Et ce qui importe, c'est le cœur du croyant qui est touché par Dieu, non pas le Christ et l'univers. Que Mauriac, sans jamais adhérer aux thèses théardiennes, et on pourrait dire la même chose de Gabriel Marcel, sont des gens qui ont découvert avec émotion la dimension spirituelle de l'homme. Et découvrant la dimension spirituelle de l'homme, ils ont eu une certaine admiration pour l'homme en restant circonspect par rapport à sa doctrine. En revanche, les grands noms de théologiens, Philippe de la Trinité, ou des philosophes comme Maritain, sont toujours restés beaucoup plus sévères à l'égard du père Théard, et pour certains d'entre eux aussi, un peu sévères à l'égard de Lubac.
Jean-Pierre Wagner, merci infiniment de nous avoir éclairé sur cet ouvrage dont je rappelle le titre, Cardinal Henri de Lubac, La prière du père Théard de Chardin. Ça fait partie de ses œuvres complètes et c'est publié au CERF. Je voudrais rappeler que le parcours du personnel du cardinal de Lubac fait l'objet d'une autre émission de Canal Académie avec le père Georges Chantraine, qui est l'éditeur responsable de la publication de ses œuvres complètes, ou du moins de l'édition de ses œuvres complètes. Que cette édition publiée par le CERF, elle se fait aussi sous l'égide de l'Association internationale Cardinal de Lubac, présidée par M. Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et vous trouverez sur notre site les coordonnées de cette association, ainsi que les références du livre de mon invité Jean-Pierre Wagner, que je remercie encore.
Merci à vous.